Bonsoir. Après le lancement de certaines opérations, notamment l'affichage des listes des électeurs par bureau de vote, la publication de la cartographie des bureaux de vote, le déploiement du matériel électoral, la CENI s'emploie aussi à accorder l'accréditation aux témoins, journalistes et observateurs. Comment analyser ces moyens mis en place par la CENI pour garantir la transparence du processus électoral? Pour en parler, Dialogue entre Congolais reçoit le professeur Jacques Joly, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Professeur Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de professeur Nias Ndala de Kolwezi au Katanga. Je pense que tout le monde doit reconnaître que sur le plan matériel ou logistique, le gros a été fait. Avec le compromis sur l'accès au serveur central par l'opposition, on peut croire en la transparence des élections. Cependant, il reste à savoir comment les chefs des bureaux de vote, étant en majorité ceux des élections de 2006, peuvent inspirer confiance. La présence des témoins est-elle suffisamment une garantie? Si oui, alors que les partis choisissent des gens dignes. Faustin Katsongo de Goma en Nord-Kivu. Au niveau de Kinshasa, la visibilité des travaux de la CENI est certaine, mais à Goma, l'affichage des listes commence quand, ou du moins cet affichage aura lieu quand? Toutefois, je félicite la CENI pour le travail abattu jusque-là. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet sur la transparence du processus électoral, monsieur le vice-président de la CENI, où en est-on à ce jour avec les préparatifs de l'élection présidentielle et législative du 28 novembre 2011? Nous avons reçu beaucoup de réactions des auditeurs qui voudraient un peu savoir à ce jour où en êtes-vous avec les préparatifs de façon générale.
Merci beaucoup. Nous voulons d'abord saluer tous les auditeurs de Radio Okapi. Et à travers eux, l'ensemble du peuple congolais qui attend dans moins de 18 jours notre scrutin du 28 novembre 2011. Nous voulons leur dire que après les opérations de la révision du fichier électoral, après la réception des traitements de candidature, après la publication des listes de candidats, nous avons entamé deux phases importantes, à savoir le déploiement de matériel et la formation de membres, n'est-ce pas, des différents bureaux de vote, des centres de vote, des centres locaux de compilation et les autres formateurs. En ce qui concerne particulièrement le déploiement, nous avons des matériels non sensibles et des matériels sensibles. Pour les matériels non sensibles, à ces jours, les isoloirs ont pratiquement atteint le niveau de 90%. En ce qui concerne les kits électoraux, nous avons atteint le même chiffre, voire pour certains items tels que l'encre, nous sommes à plus de 100%. En ce qui concerne les urnes, nos compatriotes suivent que sur les 16 rotations prévues, nous avons déjà 10 rotations et dans les 2 jours, nous allons avoir les quelques rotations qui restent. Mais d'ores et déjà, le redéploiement des urnes s'est fait dans le deux Kassai, dans le Bandoudou, à l'Équateur et notamment dans le Bas-Congo. Le travail continue pour atteindre les autres provinces et au regard de notre calendrier, nous croyons pouvoir terminer le déploiement des urnes au 15 novembre 2011.
Professeur,
il reste la question de bulletin de vote.
De vote en effet.
Le bulletin de vote, l'impression du bulletin présidentiel s'est terminée. Hier, un premier stock de 14 tonnes a atterri à Kinshasa avec le président de la CENI. Il s'agit des bulletins destinés à la ville-province de Kinshasa, du Bas-Congo et de Bandundu. Le samedi, un deuxième vol va suivre. On a lancé l'impression de bulletins de vote pour les législatives. Un plan de déploiement est finalisé avec l'armée sud-africaine et la MONUSCO. Le déploiement effectif va commencer dans le temps et en termes de prévisions, l'ensemble de déploiement de tous les matériels de vote sera terminé au plus tard le 25 novembre pour que nous puissions avoir notre élection le 28 novembre.
Professeur, quand vous parlez, vous dites que vous avez l'armée sud-africaine a été associée au déploiement. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement?
En effet, en ce qui concerne le bulletin de vote, compte tenu de la complexité de l'opération, il s'agit de 2700 tonnes de bulletins. Vous savez que avec 32 millions, plus de 32 millions d'électeurs, pour le 2, n'est-ce pas, consultation, il faut pas moins de 70 millions de bulletins de vote. Ce qui nous donne un poids total de 2700 tonnes. Si nous avions pris le schéma de 2006, on aurait eu pas moins de 8000 tonnes. Mais à cause de graphiques qui ont utilisé des méthodes beaucoup plus pointues, on est à 2700 tonnes. Or, le déploiement de ces 2700 tonnes de bulletins qui sont produits en Afrique du Sud dans au moins 17 imprimeries, le problème de transport sur la République démocratique du Congo est résolu par l'apport du gouvernement sud-africain à travers l'armée sud-africaine qui va transporter tous ces bulletins sur 13 hubs, c'est-à-dire sur les 11 chefs-lieux de la République et auxquels il faut ajouter la ville de Guémena et de Guadolité. Alors, à travers ces 13 hubs, la MONUSCO va reprendre le bulletin qui doit impérativement, selon la loi, arriver dans le bureau de vote aux 48 heures avant le vote.
Avant d'aborder le sujet du jour, professeur, on sait que quand les urnes arrivent dans les chefs-lieux, mais le vrai problème, c'est dans les petits villages, les différentes localités. Comment cela va-t-il se passer? En 2006, on se souvient qu'il y a des urnes qui ont atteint leur bureau de vote à dos d'homme, qui ont traversé des rivières à pied, etc. Comment cela va-t-il se passer?
Le schéma opérationnel, effectivement, va, n'est-ce pas, de 15 hubs centraux jusqu'à 210 hubs, sous-hubs. Il s'agit essentiellement de chefs-lieux des territoires où il y a nos antennes et de certaines villes. À partir de ces 210, nous allons maintenant nous déployer sur les 63 865 bureaux de vote. Et pour ces déploiements-là, c'est essentiellement la CENI, appuyée par la MONUSCO, qui doit arriver vers ces bureaux de vote, en passant par le centre de vote. Nous avons à ce sujet 11 611 centres de vote et 16 948 sites de vote. À partir de ces points-là, les matériels, il y a ce que nous avons appelé les plans locaux de déploiement. C'est-à-dire chaque province a un plan local et chaque plan local comprend les axes difficiles. Il y a des points où il n'y a pas de route. Il faut aller soit en hélico, c'est prévu, soit par véhicule, et nous savons que nous sommes en saison sèche, soit par hors-bord motorisé qui sont déployés. À ce sujet, je voudrais dire que la CENI a acquis 210 pick-up et 69 grands camions de 6 tonnes, outre le moto et le hors-bord. Mais, comme vous le dites, la spécificité de notre pays fait qu'il y a des endroits qui ne sont même pas des routes, qui sont des pistes. Et là, les chefs d'antenne et le CEP sont dotés de moyens pour leur permettre de mobiliser des personnes physiques pour amener le matériel au bureau de vote.
Donc tout cela, on comprend, fait partie de ce que vous avez appelé le plan local de déploiement.
C'est cela.
Revenons alors, professeur, à notre sujet du jour. La CENI a déjà amorcé certaines opérations, notamment l'affichage des listes des électeurs par bureau de vote, la publication de la cartographie des bureaux de vote et le déploiement du matériel électoral aussi. Elle a commencé à accorder l'accréditation aux témoins, journalistes et observateurs. Voyons comment ont réagi certains acteurs politiques à ces moyens mis en place par la CENI pour assurer la transparence date du processus électoral, nous avons respectivement écouté Germain Kambinga du MLC, Maître Mayamba de l'UDPS, Aubin Inaku, secrétaire général de la majorité présidentielle, et le président Atundu Oliongo, ils sont au téléphone de Samuel Kachak.
Il y a eu un certain nombre de préalables qui avaient été demandés à la commission électorale indépendante, qu'à un caron. Elle a essayé, mais il y a encore des choses à faire. Si je devais citer comme ça, par hasard, un point qui, de mon point de vue, suscite quelques interrogations, c'est par exemple la cartographie des bureaux de vote au niveau du mouvement de libération du Congo. Nos experts sont en train de travailler pour effectivement vérifier que nous n'avons pas dans ce listing des bureaux fictifs, et nous en avons déjà dénombré un certain nombre, ce qui, effectivement, pose un sérieux problème de transparence ou plutôt de crédibilité du processus.
Les dés sont jetés pour que la CENI organise des élections en faveur du pouvoir en place. À ce jour, les candidats ont du mal, par exemple, à consulter la cartographie des bureaux de vote. Tout cela se réalise pour empêcher à ces derniers, bien sûr, de pouvoir être au courant de ce qu'il y a et de déployer éventuellement leurs témoins. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de considérer le travail fait par la CENI comme un travail positif.
L'honorable Aubin Inaku, secrétaire général de la majorité présidentielle. Nous avons l'une des lois électorales les mieux élaborées au monde. Il y a des soupapes de sécurité à tous les niveaux, en amont comme en aval, dans nos lois électorales. Concernant par exemple l'enrôlement, tous les partis politiques avaient la latitude juridique de disposer de témoins dans tous les bureaux de vote, ce qui n'a pas été généralement le cas. Tous les partis politiques avaient en aval de l'enrôlement la possibilité d'ester en justice pour dénoncer tous les cas irréguliers le jour du vote. Tout juste après, c'est le dépouillement. On affiche les résultats de vote bureau par bureau. Ensuite, c'est la compilation. Et donc, en réalité, au regard normatif, nous avons une loi transparente et le processus est transparent.
André Alain Atundu Oliongo, je tiens surtout à encourager le bureau actuel, principalement le pasteur Ngwe Mulunda et le vice-président Joly, contre vents et marées, ils nous ont assuré que les élections auront bien lieu le 28, la campagne sera ouverte le 28, un mois auparavant, et bien nous nous acheminons grâce à leur ténacité. Et ceci devrait nous servir d'exemple, parce qu'on n'obtient rien facilement. Il faut d'abord remarquer que le bureau a tout fait pour mettre fin aux contestations issues de ce que les partis politiques estiment comme flou. Notamment la question du serveur et tant d'autres.
Professeur Jacques Joly, comment vous réagissez à ce qu'on dit, à ces acteurs politiques contactés?
Ben, ça ne m'étonne pas, les acteurs politiques étant le premier partenaire, n'est-ce pas, du processus. Ce sont eux les candidats, ce sont eux qui doivent concourir, c'est une question essentielle pour eux. En ce qui concerne la cartographie, comme nous encourageons les amis, les experts du MLC à faire ce travail pour débusquer le bureau fictif qu'il y aurait, n'est-ce pas, sur le 63 865, le travail a été fait, le travail a été publié, ce qui, n'est-ce pas, rejoint ou peut, n'est-ce pas, rassurer notre ami Maître Mayamba qui disait que le texte n'est pas publié. Si Germain Kambinga peut faire un travail de nettoyage et de débuscage de bureaux fictifs, c'est que c'est le document est accessible. Dans tous les cas, nous avons dit à tous les amis que la cartographie a été publiée le 28 et sur notre site, ils peuvent avoir toutes les adresses de bureaux de vote. S'ils ne parviennent pas à avoir les documents sur Internet, ils peuvent s'adresser à nos services qui sont prêts, à leur remettre le document sous forme de disquette ou sous forme physique. C'est un document de 400 pages. Donc, il est important que les partis politiques puissent entrer en contact avec cette cartographie afin d'avoir leur plan de déploiement de témoins et surtout maîtriser le nombre d'électeurs par bureau de vote et l'identité des personnes qui vont voter par bureau de vote. Il s'agit donc d'un mécanisme fondamental de sécurisation et une garantie formelle de la transparence du processus.
Professeur, revenons à l'affichage des listes des électeurs par bureau de vote. La loi électorale, dans son article 8, dit, je cite, « Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs est affichée 30 jours avant la date du scrutin. » Je m'arrête là, mais professeur, la CENI n'a-t-elle pas violé la loi?
Non, la CENI a le 30 jours avant avait l'obligation de publier cette liste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans le travail de cartographie électorale, les 62 000 bureaux de vote ne concordaient pas aux 32 millions, n'est-ce pas, plus de 32 millions d'électeurs que nous avons. Donc le nombre du bureau est passé des 62 000 à plus ou moins 63 865, ce qui faisait un effort supplémentaire. Par ailleurs, tous les chefs d'antenne ont été convoqués à Kinshasa et chacun d'eux a reçu en lot la liste de ses électeurs. Il faudra se mettre en évidence. Une loi doit toujours être prise dans son contexte, sinon c'est un prétexte. Le but de la loi c'est quoi? D'assurer la transparence. Il est vrai que les bureaux de vote sont très souvent dans les écoles. Et il faut, à ce qui concerne Kinshasa par exemple, les listes ont déjà été affichées. Et le travail est en train de continuer pour que tous les citoyens puissent savoir dans quel bureau de vote ils vont voter et pour que les partis politiques puissent maîtriser cette liste électorale, gage, n'est-ce pas, de la sécurité, donc un mécanisme anti-fraude et gage de la transparence.
Professeur, il y a cette auditrice Aline Riziki Kimonge qui nous écrit d'Ouvira au sud Kivu. Je salue non seulement l'effort entrepris par les dirigeants de la CENI, mais aussi leur volonté d'organiser les élections dans le strict respect du calendrier. Cependant, bien qu'on ait déjà publié la cartographie des bureaux de vote sur Internet, alors que la majeure partie de la population d'Ouvira où je suis n'a pas accès à cette nouvelle technologie. Jusque-là, aucune liste des électeurs n'est affichée sur ces bureaux publiés. Or, elle devrait être affichée 30 jours avant les élections. Je crains que ce comportement de précipitation des élections qu'affiche la CENI ne puisse générer des contestations lors de la proclamation des résultats, professeur.
Et les craintes de cette auditrice, je crois.
Oui, oui. Aline Riziki.
Sont fondées. Et c'est pourquoi nous demandons au chef d'antenne de la CENI à Ouvira de faire de son mieux pour afficher le plus tôt possible les listes. Aujourd'hui, la liste de bureaux de vote est sur les sites et le chef d'antenne a cela. Il a reçu ou il est en train de recevoir la liste par bureau de vote. Il doit répondre à cette impératif de la loi.
Mais professeur, visiblement, il n'y a pas que Ouvira. Nous avons posé la question, par exemple, à Goma, à Lubumbashi. Dans plusieurs provinces, ces listes n'ont pas encore été affichées.
Je vous ai dit que tous les chefs d'antenne étaient convoqués à Kinshasa. Et ils sont rentrés presque tous ce week-end. D'autres sont encore ici. L'opération d'envoi des listes est physique. Parce que sur Internet, l'opération est faite. Sur les listes physiques, ils vont le recevoir. Et la CENI va aller plus loin. La CENI va permettre à ceux qui ont les téléphones portables d'interroger avec un numéro que nous allons donner notre base de données pour connaître le lieu où ils vont voter. Donc nous allons améliorer l'accessibilité de l'information, mais il va de soi que pour imprimer en 5 copies les listes de 32 millions, nous avons connu une difficulté matérielle certaine qui a retardé, et à cela il faut conjuguer la création de nouveaux bureaux de vote et qu'il fallait d'abord faire adopter par le bureau et publier pour éviter de dire qu'on a créé des bureaux fictifs.
Donc vous confirmez, professeur, que d'ici le 28, au moins chaque électeur saura, pour ceux qui sont en train de nous suivre en province maintenant, ils sauront où voter.
En tout cas, nous devons le faire dans le délai. Et que pour nous, 15 jours avant le bureau, avant le scrutin, il faut absolument que chacun sache là où il va voter. Et que s'il ne parvient pas à le voir, il peut interroger d'ailleurs directement la base des données de la CENI qui lui donnera. Comme d'ailleurs maintenant pour les candidats. Vous savez, les candidats peuvent interroger la base des données pour savoir le numéro de leur dans leur sur le bulletin de vote.
Il ne reste que moins de 18 jours, hein, professeur.
Oui, 18 jours.
Et c'est faisable.
C'est faisable, nous sommes en train de le faire.
Professeur, en parlant de transparence dans le processus électoral, il y a une question qu'on ne saurait pas outrepasser, c'est la question de l'accès aux serveurs. L'opposition en a fait presque son cheval de bataille. Où en sommes-nous avec cette question?
Je crois que l'exigence de l'opposition d'accéder aux serveurs est une exigence légitime, comme je l'ai toujours dit, même si sur le plan de droit on peut discuter. Mais l'opposition, dans l'esprit de la transparence, en fait tous les partis politiques doivent y arriver. La question qui restait, c'était les modalités. Il fallait définir le nombre de personnes qu'il fallait envoyer. Pour la CENI, il était question de désigner 2 personnes. Finalement, le compromis est tombé sur 3. Malheureusement, lorsque les travaux ont commencé, la majorité a amené 5 personnes, l'opposition a amené 5 personnes, alors que la majorité a amené 3 personnes. Et on est entré dans des débats pour savoir si les 2 devaient sortir et où les 3 devaient rester, et nous sommes à ce niveau.
Des débats interminables.
Interminables. Qui n'ont pas produit nous avons demandé aux uns aux autres de commencer le travail. Parce que, entre-temps, l'opposition a présenté un terme de référence et la majorité n'a pas trouvé d'inconvénient. Donc, les termes de référence sont là. Donc, il était question de déterminer donc le profil des personnes qui doivent travailler, le nombre, les termes de référence et les calendriers. Ils ont pris beaucoup de temps pour discuter sur le nombre. Et aujourd'hui, je crois que, au niveau du bureau, nous avons demandé à ses amis de désigner les 3 personnes pour commencer, même si la majorité ne vient pas, que les 3 personnes de l'opposition commencent. Parce que c'est un élément important susceptible d'apaiser les inquiétudes des uns et des autres et de nous permettre d'avancer dans la sérénité.
Mais ça semble traîner, professeur, comme nous insistons qu'il reste 18 jours. Et cette histoire de serveur, d'accès au serveur, ne va-t-elle pas demeurer une épine dans le pied de la CENI?
Je crois que c'est une exigence d'un groupe qui estime que c'est un point qui l'intéresse vraiment. Ce qui est important, c'est d'avoir un processus intègre. Ce qui est important, puisque en amont, il aura fallu déployer les témoins pour que les témoins puissent déceler éventuellement de fraude, et que si on décelait de fraude, aller en contestation en justice. Mais puisque apparemment les témoins n'étaient pas là, il y a des doutes, n'est-ce pas, sur la fiabilité du fichier. Mais on peut aujourd'hui dépasser cette fiabilité parce que même si on a mis des fictifs, mais les listes sur le bureau de vote vont permettre aux témoins des partis politiques de démasquer, parce que dans le bureau de vote, avant d'entrer, il y a la liste d'émargement. Et chacun doit mener sa carte pour voir si réellement il est sur cette liste. Et le nombre de bulletins de vote s'est envoyé par fonction de cette liste-là. Donc, à la fin du processus, on va noter le nombre de ceux qui ont voté réellement, le nombre de bulletins utilisés, le nombre de bulletins non utilisés, et le PV doit reprendre tous ces éléments pour éviter, n'est-ce pas, la fraude. Donc, le mécanisme de sécurisation, je l'ai toujours dit, c'est le bureau de vote. Et ensuite, les témoins doivent avoir le copie de PV. Donc, un parti politique organisé peut, à partir de ces témoins, connaître son résultat dans un délai très bref et maintenant regarder la CI ou la CENI en face pour dire, voilà, moi j'ai obtenu autant, parce que ces résultats sont affichés dans chaque bureau de vote. Et au niveau de la compilation, les fiches de compilation, le fiche des résultats sont aussi signés par le témoin. Et les résultats du bureau de compilation, le 210, sont affichés. En fait, qu'est-ce que fait la CI? C'est tout simplement que ces documents, ces fiches, ces PV, surtout les PV des résultats, sont envoyés à la commission électorale ici à Kinshasa, en passant par le province, et nous comptabilisons arithmétiquement. Donc, pratiquement, le bureau de la CENI n'est qu'une chambre d'enregistrement des résultats qui sont, n'est-ce pas, proclamés, du moins affichés, parce que la proclamation revient au bureau de la CENI. C'est à ce niveau-là qu'il faut mettre les moyens pour éviter la fraude. Parce que la fraude existe.
Alors, puisque vous parlez des témoins et des observateurs, notez qu'à moins de 3 semaines de la tenue des élections, les préparatifs vont bon train. Du côté des missions d'observation tant nationales qu'internationales, des deux côtés, les observateurs n'attendent plus que d'être déployés au moment opportun dans les centres de vote. Certaines organisations congolaises évoquent par contre des difficultés de transport pour déployer à temps les observateurs nationaux. Le point avec vous, Askenzik Biatayoro.
La Commission africaine pour la supervision des élections, CAS, a formé déjà 14 228 observateurs nationaux, dont 5 000 seront déployés sans problème dans les 24 communes de Kinshasa. Selon le président de la CAS, son organisation envisage d'augmenter l'effectif de ses observateurs pour tenter de contenir le nombre de bureaux de vote revus à la hausse par la CENI. Cependant, d'après Simaré Ongongo, il se pose un problème de transport pour le déploiement de ses observateurs nationaux à l'intérieur du pays.
La CAS n'a pas des avions. Nous comptons plus, surtout sur la MONUSCO, de nous appuyer pour déployer tous les observateurs dans le bureau de vote.
La mission régionale d'observation électorale EISA prépare de son côté 10 200 observateurs nationaux à déployer dans le chef-lieu de province. Entre-temps, elle poursuit encore la formation de ses observateurs, parmi lesquels on compte le peuple autochtone, le pygmée. La mission d'observation électorale de l'Union européenne est, elle aussi, à pied d'œuvre. Elle dit être prête à déployer 147 observateurs sur toute l'étendue du territoire national. 46 observateurs dits internes de cette mission sont déjà sur terrain. D'autres missions d'observation électorale et internationale s'apprêtent à apporter également leur expertise en RDC.
Professeur Jacques Joly, malgré cette mobilisation au niveau des observateurs tant nationaux qu'internationaux, il y a certains analystes qui continuent à fustiger le nombre réduit d'observateurs. Est-ce que ça pourrait être un problème pour la CENI?
Non, la CENI n'a pas de problème sur cette question. Nous croyons que les élections congolaises par rapport à d'autres pays attirent et intéressent énormément d'observateurs. Je crois que l'Union européenne a une mission, comme on a dit, de plus de 147 observateurs. Il y a déjà 46 qui sont sur le terrain. La Fondation Carter va déployer des observateurs, NDA va déployer des observateurs, l'Union africaine envoie même une mission spéciale dirigée par M. Kamel Morjane, l'Organisation internationale de la francophonie va envoyer un envoyé spécial qui est déjà là, chargé des élections, il y aura une mission. Donc, au niveau international, il y a suffisamment d'observateurs, la Belgique va envoyer même 30 parlementaires qui seront là, députés et sénateurs, et nous continuons à enregistrer, n'est-ce pas, des demandes sur l'ensemble de la communauté internationale. Au plan interne, il y a cette effervescence. La commission justice et paix de la conférence épiscopale va déployer 30 000 observateurs. Vous avez suivi CAS, EISA et d'autres structures locales. La Voix de Sans Voix, la ZADO, tous nous ont écrit pour déployer des observateurs. Alors, la question, c'est si les observateurs sont ni à la charge de l'État ni de la CENI. Nous avons toujours encouragé les organisations internationales d'opérer en partenariat avec les organisations de droit interne. Et lorsque les organisations de droit interne recrutent, il ne faut pas recruter tous à Kinshasa parce que le déploiement se pose des problèmes. Il faut avoir la capacité de recruter localement et de former. Et à ce moment-là, nous allons avoir non seulement des témoins, mais les observateurs, et avec les journalistes, ce sont les trois pieds qui servent, n'est-ce pas, à garantir et à garder un œil vigilant sur le processus. Et
il faut déjà dire que l'opération d'accréditation a commencé.
L'opération d'accréditation a commencé, il y a un communiqué qui a été lancé depuis, n'est-ce pas, le 7 novembre, et depuis le 8, nous sommes en train d'inviter, nous invitons les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats indépendants, les associations, les ONG internationales, les organes de presse nationaux et internationaux, les différentes structures qui sont intéressées par ces processus, de venir retirer leur formulaire de demande d'accréditation auprès de la CENI à la direction d'accréditation sur notre bureau au boulevard. Ils peuvent aussi retirer le formulaire dans nos antennes et dans nos démembrements provinciaux, et ils recevront en retour une carte d'accréditation. Les conditions sont claires, il faut être pour les témoins désignés par un parti politique, il faut, n'est-ce pas, avoir être inscrit sur la liste électorale et présenter sa carte d'électeur en même temps que sa demande. Donc, de même pour les observateurs, il y a des conditions qui sont prévues par la loi et d'autres modalités pratiques.
Professeur, il y a cet auditeur qui nous écrit, cet internaute qui nous écrit de l'Ouganda, Maonda à Kampala. Je suis pessimiste quant à la transparence des échéances électorales du 28 novembre prochain en RDC. Je pense à mon humble avis que lorsque la formule est mauvaise, on aboutit forcément à un mauvais résultat. Je respecte beaucoup le prof Joly, vice-président de la CENI, parce qu'il m'a enseigné à l'UNIKIN, mais le fait déjà que la CENI ait passé des listes des candidats d'un parti politique qui dépasse le nombre des sièges à pourvoir me laisse poser des questions sur le respect de la loi électorale et la garantie de la transparence des élections. Si l'on sait aussi qu'il a fallu que du sang coule pour que la CENI admette l'audition du fichier électoral et le serveur central, s'il y a des candidats députés qui exerçaient encore d'autres fonctions publiques en violation de la loi électorale, pour ne citer que ces imperfections, ceci dit, comment pouvons-nous admettre que le processus sera transparent, professeur?
Voilà, c'est les inquiétudes de notre frère en Ouganda sont justifiées lorsqu'on connaît la nature des élections qui se déroulent en Afrique, qui sont très souvent des élections de pacotille pour, n'est-ce pas, faire passer un candidat qui est au pouvoir et blaser les candidats de l'opposition qui ne sont là que parfois pour faire valoir. Mais il faut que l'ami comprenne que si nous sommes là, c'est pour quand même veiller à ce que les choses se passent bien. Et je voudrais lui dire que il faut faire parfois très attention à ce qui s'est dit dans les commérages communs. La question du serveur central, je crois que j'ai donné
nous la réponse. Nous l'avons déjà abordé, oui.
La question de... Qu'est-ce qu'il disait encore? Je n'ai pas noté.
La question des candidats qui ont déposé des listes.
Sur cette question-ci,
avec beaucoup
il
plus
faudra
de nombre
que
des
les
sièges.
Amis soient parfois disent les choses telles qu'elles se sont passées. Lorsque nous avons lancé les bureaux de réception et de traitement des candidatures, il était question que tous les candidats aillent dans leurs antennes, dans leurs circonscriptions. Qu'est-ce qui s'est remarqué? Tous les candidats sont venus à la CENI pour dire qu'il n'y avait pas de moyens de transport pour arriver à Kolé, à Lomela ou à Djol ou à Ikela. Nous avons changé les logiciels pour que chacun dépose sa candidature au chef-lieu de la province. Là aussi, l'inexistence d'une compagnie nationale aérienne et l'exécuter de l'offre de la seule compagnie qui travaillait n'a pas permis à ces candidats d'aller dans le chef-lieu. C'est alors que nous avons dit que tout le monde dépose ses candidatures à Kinshasa. Avec conséquence, c'est qu'il y a des personnes qui ont déposé les candidatures dans leur circonscription et d'autres qui ont déposé les candidatures soit dans le chef-lieu ou à Kinshasa. C'est qu'il y a eu amoncellement de candidatures. Nous n'avons pas voulu prendre le risque, nous, de faire enlever un certain nombre de candidatures. Et par erreur matérielle, les choses sont allées à la Cour suprême. Et lorsque la CENI a été convoquée à la Cour suprême, en tant qu'expert, nous avons dit que cela était dû à des erreurs matérielles. C'était pas simplement le parti du pouvoir qui était dans cette situation. Il y avait aussi les partis de l'opposition. Mais pour des élections apaisées, nous avons permis à chacun de corriger ces listes dites provisoires. Et aujourd'hui, ces problèmes n'existent pas. Je crois que à tous les niveaux, les gens ne doivent pas faire du formalisme tout simplement pour le faire. Les droits, c'est d'abord la dimension intentionnelle. Donc, c'est ce qui a été fait et je crois que cette question a été, n'est-ce pas, résolue. Donc, j'invite les uns et les autres à faire confiance au travail que nous faisons et je voudrais leur dire que lorsque ma conscience me dira que je ne suis pas dans le bon, j'y prendrai mes responsabilités.
Nous avons également posé la question à certains acteurs politiques pour savoir comment ils préparent leurs témoins à ce scrutin. On les écoute au téléphone de Samuel Kachak. On écoute respectivement Germain Kambinga du MLC, Maître Mayamba de l'UDPS, Robin Minaku et André Alain Atundu.
Nous aurons des témoins actifs, ça veut dire à l'intérieur des bureaux, mais nous demandons également à la population de nous accompagner par une présence passive, donc des témoins passifs à l'extérieur des bureaux de vote. Nous sommes prêts et nous serons au rendez-vous de la manière la plus crédible. Le MLC, de toute façon, c'est un parti politique qui, lorsqu'il s'engage dans un combat, s'engage avec sérieux et avec organisation.
L'UDPS s'organise. Nous disposons d'organes qui sont chargés de la gestion du parti à la base. Ces organes qui sont responsabilisés. Et puis, il y a d'autres formations, des formateurs qui s'organisent au niveau des instances supérieures, donc à notre niveau. Tout est en train d'être mis en place pour assurer notre participation aux élections de manière techniquement souhaitable.
Au niveau de la majorité présidentielle, il nous faut plus de 124 000 témoins que nous avons déjà recrutés sur toute l'étendue de la République. Il nous faut aussi des témoins au niveau des bureaux de compilation. Nous les avons déjà recrutés. Nous sommes en train de finaliser les documents afin que la CENI puisse les accréditer conformément à la loi.
La Convention pour la démocratie et la République, CDR, mon parti, se prépare essentiellement pour les témoins. Dans chaque bureau, on met un témoin. Nous espérons avoir le moyen de mettre deux. Parce que le problème des témoins, c'est le moyen. Pour qu'ils ne soient pas tentés de ne pas venir ou bien d'être négligents. Cette activité-là n'est pas seulement politique, elle est essentiellement civique parce qu'elle contribue à la transparence des élections, à la crédibilité du processus électoral. Et donc aujourd'hui, c'est par circonscription que nous faisons, rien que pour la Tiangou, il y a plus de 2900 bureaux. Ça vous donne l'idée du nombre de personnes et des moyens à mettre en place.
Voilà, le temps est en train de filer, professeur Joly. Il nous reste 7 minutes. Nous allons un peu aller vite également. Nous revenons au problème de l'accréditation. Il y a beaucoup d'auditeurs qui voulaient savoir comment ça va se passer pour les journalistes qui ont perdu leur carte d'électeur, pour les journalistes étrangers et pour ceux qui sont en province qui aimeraient avoir cette accréditation.
Je crois que je vous ai dit qu'il y a un communiqué de presse qui a été mis à la disposition de la communauté nationale internationale. L'accréditation des témoins est prévue dans la loi électorale. Je crois que je vous ai donné la réponse. Pour les observateurs également, nous trouvons qu'il faut être, comme observateurs nationaux, il faut être sur la liste électorale, avoir sa carte, avoir un mandat de bonne due forme de l'organisation, et la lettre de demande d'accréditation doit être signée par les responsables de l'organisation qui observent. Alors, pour les observateurs internationaux, ça se passe dans nos chancelleries, il faut présenter son passeport, photocopie de passeport, présenter un mandat bonne due forme de l'organisme, et la lettre de demande d'accréditation doit être signée par les responsables de l'organisme. Pour les journalistes nationaux, parce qu'il est important que les journalistes soient dans le bureau de vote, parce qu'en tant que vecteurs et médiateurs, ils peuvent, n'est-ce pas, dire exactement les choses telles qu'elles se passent. Donc, les journalistes nationaux doivent être inscrits sur la liste électorale et présenter sa carte d'électeur. Si vous avez perdu votre carte d'électeur, il y a une procédure. Il faut aller d'abord dans un commissariat, avoir l'attestation, aller ensuite dans notre antenne et l'antenne va envoyer au Centre National de Traitement qui va retrouver vos données et va vous donner
un duplicata. Voilà, professeur, par rapport, il nous reste 5 minutes, nous allons aborder d'autres questions, les à côté du processus électoral. Il y a beaucoup de cas d'intolérance ces jours-ci. La CENI a condamné dans un communiqué, mais aussi dernièrement, vous avez promis dénoncer tout candidat qui violerait le code de bonne conduite. Qu'avez-vous fait?
Mais nous avons dénoncé. En ce qui concerne la violence, d'abord, nous avons invité, nous invitons les uns et les autres d'inviter des discours de haine, des discours de violence, d'instrumentalisation de gêne, des créations des milices et des écuries des Pomba et autres. Nous avons demandé aux uns et aux autres de recentrer les débats sur leur projet de société et sur l'opérationnalisation de ces projets de société. Le débat jusqu'à présent a beaucoup plus de chaleur que de lumière. On voit les gens avec des teintes marres de fanfares, mais il faut qu'on pose les vrais problèmes du développement de ces pays. Et ça ne sert à rien de vouloir ratisser par le tribalisme, par l'achat de conscience, par les t-shirts. Il faut qu'on puisse élever les débats. Et la violence est condamnable. Nous condamnons ce qui s'est passé hier à Kikwit contre le candidat Vital Kamerhe par le jeunesse d'un parti. L'enquête est ouverte et des gens seront sanctionnés.
Voilà, il nous reste au moins de 4 minutes. Nous allons encore devoir courir un peu, professeur. Par rapport à l'affichage des effigies des candidats sur les édifices publics, au sud Kivu, la CENI a commencé à enlever d'elle-même les photos et autres banderoles. Est-ce que ça pourrait se faire ici à Kinshasa?
Non, nous avons l'obligation de dénoncer. Nous sommes la CENI, nous sommes saisis par les citoyens, parce que l'article 30 interdit l'affichage sur les lieux publics. Et nous avons écrit à ce qui concerne la ville de Kinshasa. Nous avons invité les mandataires de candidat numéro 3, le candidat Joseph Kabila, d'enlever les effigies sur l'immeuble de la RTNC et au stade de Martyrs.
Cela a-t-il été fait?
Cela n'a pas été fait, et demain, nous allons entrer en contact avec l'autorité politico-administrative pour qu'il assume sa responsabilité en cas de non-crédibilisation de ces processus.
Professeur, le 28 novembre 2011, c'est un lundi, jour ouvrable. Quelles sont les dispositions prises pour faciliter le vote? Est-ce que ça sera chômé? Qu'est-ce qui sera fait?
Nous sommes en contact avec le gouvernement, plus précisément avec le ministre du Travail, des Prévention sociales et le ministre de l'FSP pour régler cette question, parce que ces jours ne peuvent pas être ouvrables. Nous avons des bureaux de vote essentiellement dans les écoles. Et il sera difficile de confiner les enfants avec les votants, tout comme pour donner, n'est-ce pas, un cachet spécial à cette journée qui est, comme nous disons, une journée de remaniement général de toutes les institutions de la République. Il est important qu'il y ait une journée qui permet, chômée, pour permettre à chacun d'aller, n'est-ce pas, assurer sa charge civique. Mais nous allons, à temps opportun, annoncer les dispositions pratiques qui seront prises en liaison avec le gouvernement.
Alors, professeur, est-ce que vous pouvez lancer un message de garantie à tous les auditeurs et les internautes qui nous suivent en ce moment quant à la transparence du processus, de ce processus?
Nous continuons à dire que le processus n'est transparent que si chacun de nous assume sa responsabilité. La responsabilité active de partis politiques à mettre en place les témoins dans tous les bureaux de vote. Ces témoins qui ont le droit de signer tous les PV des résultats qui sont affichés immédiatement. Les témoins qui ont le droit d'accompagner les plis et les résultats jusqu'aux centres locaux de compilation, d'assister à la compilation, de signer les PV de compilation, de signer les PV des résultats et d'assister à l'affichage et de prendre encore une copie. Et jusqu'au niveau du plus haut, les témoins des partis politiques qui doivent être là. Deuxième mécanisme, la présence des observateurs nationaux et internationaux. Les observateurs internationaux ont les facilités. Les observateurs nationaux, nous demandons à toutes les structures de la société civile de s'engager massivement pour que déployer les observateurs. Et enfin, vous les journalistes, vous devez vous faire accréditer pour sillonner tous les bureaux et vous rendre compte éventuellement de toutes les tentatives de fraude. Mais par ailleurs, la CENI est en train de déployer de nouveaux chefs d'antenne. On a changé les secrétaires pour éviter toute clientélisation et manipulation de nos agents, qui est d'ailleurs sanctionné par le code pénal.
Merci beaucoup, professeur Jacques Dely, vice-président de la CENI. Et merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Restez branchés sur Radio Okapi.